Yvonne Godeau, Les Contes du Manoir Rose ou Le Framboisier, chapitre 9, Le peintre et son tabouret. Presque chaque année, un peintre ami de grand-père et grand-mère vient au Manoir Rose, parfois au printemps, parfois à l'automne, le plus souvent l'été. Ce peintre a de larges épaules. La peinture est, paraît-il, un métier de sportif et exige beaucoup de force. Il a aussi le front haut, qui manifeste assez combien ses perceptions dépassent celles du commun. Il a de beaux yeux amusés et pourtant sérieux et attentifs. Des cheveux légers et grisonnants ne dissimulent rien de l'harmonieuse rondeur de sa tête. Une moustache grise aussi protège la bouche, comme un petit toit de chaume enneigé. Ce peintre est un beau et bon garçon. Hélas, il est de nature anxieuse, et sa vie entière est marquée du signe de l'inquiétude. Quand il était encore enfant et que se faisait déjà jour en lui l'envie irrésistible de s'exprimer à travers les couleurs, il est allé trouver son grand-père. Celui-ci, peintre lui-même, brossait d'immenses toiles qui submergeaient l'âme du petit garçon. Un jour, en déposant comme une offrande une petite peinture qu'il venait d'achever, il dit « Je t'apporte un tableau, grand-père. Peux-tu me le corriger ?» Le grand-père, avec une certaine solennité, regarda le travail de son petit-fils et dit « Peins ce que tu vois ». Ce fut tout, et ce fut terrible. Ces mots si simples ne l'ont plus jamais quitté et ont fait chez lui des ravages. Mais ils ont aussi été d'un grand enseignement. En effet, il a exercé longuement, patiemment, assidûment l'acuité de son regard. Il a fini par voir avec une précision inégalable le monde qui l'entoure. Il a même percé certains mystères invisibles aux autres humains. Il a acquis une sensibilité telle qu'aucun détail, si infime soit-il, ne lui échappe. Comme un détail se rattache toujours à d'autres détails pour créer l'unité de l'ensemble, il n'a jamais fini d'inventorier son sujet. Ce si court conseil de l'aïeul a donc fait de lui un peintre perpétuellement insatisfait. Grand-père et grand-mère ont beaucoup d'amitié pour lui, beaucoup d'admiration aussi. Il le voit toujours arriver avec plaisir, mais à ce plaisir se mêle une incertitude. Ils savent qu'il descendra de leur mur quelques toiles qu'ils considèrent comme inachevées. Ils se perdent en conjectures quant à ce qu'il accrochera avant de repartir. Ils ont eu ainsi dans leur salon, depuis quelques années, des sujets toujours semblables et pourtant si totalement remaniés qu'ils étaient devenus méconnaissables. « Nous aimons bien ce tableau, » disent-ils timidement. « Crois-tu qu'il soit nécessaire de le reprendre ?» « Oui, oui, » répond l'artiste inspiré. « Beaucoup de choses m'ont échappé. Vous verrez, ce sera beaucoup plus beau. Faites-moi confiance. »« C'est toi qui décides, » répondent-ils résignés. Et le tableau reprend le chemin du chevalet. Le peintre arrive avec sa voiture, dont le coffre est rempli de matériel de peinture. Châssis tendu de toile blanche, boîte de couleurs de campagne dont les pieds se déplient et se replient, chevalet à coulisses, parasol et tabouret de bois. Comme il reprend les œuvres déjà accrochées au mur, les châssis repartent souvent avec les toiles vierges, bien qu'il les ait amenées dans l'intention d'abattre un énorme et nouveau travail. Cette année-là, il avait rapporté de Paris un tableau réalisé en bordure de marbre l'année précédente. « Tout ça manque de subtilité, » pensait-il. « La nature est tellement plus belle. Il faut que je creuse mon sujet. Il faut que j'exprime l'immatériel à travers les apparences. » « Oh, pourquoi suis-je si infirme au point de ne pouvoir peindre ce que je vois ?» Il retourne à rêver auprès de la mare. La richesse du paysage le transportait, et il se disait « Cette année je suis mûr, je sais ce qu'il faut faire, je suis maître de cette technique qui m'a si longtemps torturé. » Il installa son chevalet dans l'herbe, déplia sa boîte de couleurs, sortit sa palette, ses pinceaux et ses petits godets, puis choisit scrupuleusement la place de son tabouret de bois blanc. Il avait retrouvé l'angle exact sous lequel son tableau avait été commencé. Il abrita sa tête d'un chapeau de rabanne passablement jauni par le soleil et quelque peu empesé de peinture à l'huile, s'enveloppa le ventre, les reins et les jambes d'un tablier de coutil, comme ceux des jardiniers munis d'une grande poche. Bleu marine à l'origine, ce tablier aurait pu passer maintenant pour une œuvre d'art si on l'avait tendu sur un châssis et signé au bas, tant il était chargé de couleurs de toutes sortes. Il s'assit sur son tabouret et, la joie au cœur, se remit à l'ouvrage. Tout l'après-midi, il peignit dans l'euphorie, sûr d'aboutir enfin à ce qu'il s'était promis de faire. Quand le soleil se fit plus pâle, il pensa « Cela suffit pour aujourd'hui. La lumière change. Je reviendrai demain. » Grand-père vint à son secours pour rapporter vers la maison le matériel déplié. Ils laissèrent en place le tabouret, indispensable repère, qu'ils retrouveraient le jour suivant. Toute la famille fut prévenue. « Que personne ne bouge le siège près de la mare !» C'était un ordre extrêmement impératif qui ne devait pas être enfreint. L'après-midi suivant, ramena le peintre, avec sa panoplie, devant son sujet. La veille, il avait complètement détruit le tableau initial débuté à Paris. C'était désormais une tartine de boue embrouillée, méconnaissable. Il se disait que de là, son paysage sortirait lumineux et épuré. La colombe, oiseau de Vénus, qui logeait dans l'un des tilleuls de l'allée, vint se poser dans un bouquet d'arbres non loin de lui. Elle le vit qui rêvait, la palette abandonnée sur les genoux. Elle sentit que son rêve était triste. « Pourquoi as-tu le front si tendu? Peins ce que tu vois !»« je sais, c'est aussi ce que me disait mon grand-père. Mais tu ignores que c'est justement là mon tourment. Ne vois-tu pas comme les nuages passent, comme la lumière change sans cesse, comme les arbres mêmes ont des humeurs suivant les heures? Plus mon œil est aigu, plus il m'est difficile de fixer sur la toile ce que j'ai vu et senti. Je suis découragée. La main ne suit pas l'esprit. » « Invoque les dieux, » répondit la colombe, « et cesse de te tourmenter. Tu devrais savoir à ton âge que ce sont eux qui décident et font le travail à travers toi. Ton grand-père le savait bien, lui, et ne se souciait pas de détails. Pourquoi m'a-t-il laissé ces quelques mots si torturants en héritage? Pour que tu ne deviennes jamais un tricheur. » Le peintre se mit à respirer plus librement. Ce dernier mot avait eu sur lui un pouvoir magique. Il savait qu'il ne pouvait pas douter de sa sincérité. Quand la colombe le vit reprendre sa palette et sourire, elle enchaîna. « Je vais m'arranger pour que tous coopèrent. Je dirai aux arbres de se laisser bercer par le vent sans penser, afin que leur humeur soit stable. Au vent, de ne pas changer de souffle. Je veillerai aux nuages, pour qu'ils acceptent de faire un petit détour et qu'ils n'assombrissent pas ton ciel. Mais je ne peux changer le cours des heures, ni retarder le chemin du soleil. Merci, je pense qu'avec ce que tu me proposes, je devrais mener rapidement à bien ce que j'ai entrepris. » Une semaine se passa ainsi, qui fut une véritable idylle entre le peintre et son motif. La toile devenait chaque jour plus belle, vraiment lumineuse et superbe. Tout le monde était content au manoir, car le temps était d'une constance inégalable. Un après-midi qui devait être le dernier, le peintre s'assit sur son tabouret, s'arma de ses pinceaux et observa le paysage. Il se releva, se rassit, fut pris d'une agitation évidente. Ça, par exemple, l'arbre n'est plus à la même place par rapport à la maison. J'ai la perlue ou quoi? La mare aussi s'est déplacée. Hé, on a touché à mon tabouret. Toute la famille fut sur le pied de guerre. Grand-père, qui faisait sa sieste, sortit de son bureau et dit « Mais non, mon vieux, ce n'est pas moi. Qui aurait fait une chose pareille? C'est impossible !» ajouta grand-mère. « Ah, monsieur, je ne me serais pas permis !» rétorqua Zizine. « Non, non, nous te le jurons !» crièrent les enfants. Le mystère resta entier, et le peintre, pour replacer son tabouret, dut refaire toute la cérémonie préliminaire du premier jour. Il ne fit pas son tableau ce soir-là, contrairement à ce qu'il avait prévu. Le lendemain, ce fut terrible. Le tabouret avait disparu. Très déprimé, le peintre demanda. « Pouvez-vous me prêter une chaise de cuisine, Zizine ? Ah pardon, je deviens fou. Une chaise de cuisine, Zizine ? Bien sûr, monsieur, dit Zizine, au comble de l'étonnement. » Le peintre installa une chaise, après la nécessaire mise au point habituelle, pour retrouver l'angle désiré et idéal. Il peignit ce jour-là dans un état de triste perturbation mentale. Il n'acheva pas non plus son tableau. Il laissa la chaise à sa place, après avoir, par précaution, soigneusement marqué les pieds avec des piquets de bois. La nuit fut mauvaise. Dès le réveil, il s'en fut sur le lieu de son travail. Là, après s'être frotté les yeux, il fut saisi par un sentiment intense de persécution. La chaise avait été retirée. Ne restaient que les piquets de bois et un dossier brisé. Toute la famille se rassembla sur l'emplacement du désastre. La consternation était générale. « Tu ne peux pas me laisser comme ça !» dit le peintre à grand-père, qui, en tant que propriétaire, se sentait particulièrement responsable. Ouvrant des bras impuissants, il ajouta « Je suis l'objet d'une plaisanterie qui dépasse de beaucoup l'entendement. Ne peux-tu pas faire transporter le banc de pierre qui est sous les pommiers, près de l'enclos aux chevaux? Celui-là, au moins, on ne pourra ni le voler ni le casser. » Avec sa bonne volonté et son amitié à l'égard du peintre, grand-père dut résoudre une très difficile équation. Lucien s'attela au banc, aidé d'hommes venus du village qui s'aidèrent eux-mêmes de palans, de vieilles roues de tracteurs. Ce fut une équipée digne des ouvriers de l'ancienne Égypte. Quand le banc fut en place, le peintre s'y installa, puis, se glissant à droite à gauche, sur la pierre, trouva enfin la perspective souhaitée. Il se remit à l'ouvrage avec courage et efficacité. Il se promit de terminer sa toile le lendemain. Quand il revint l'après-midi suivant et qu'il s'assit sur le banc de pierre, il fut pris d'une véritable épouvante intérieure en constatant ce qui lui arrivait. Il avait les genoux à la hauteur du nez. Le banc s'était enfoncé d'au moins 40 cm dans l'herbe et la terre. « Impossible de peindre dans ces conditions, balbutia-t-il en plein désarroi. Ou alors il faut que j'enlève tout le ciel de mon tableau. Les arbres sont si hauts maintenant que ça n'a plus aucun rapport avec ma vision précédente. » Il ne se plaignit à personne, mais s'en fut dans les bois, envahi de pensées tout à fait négatives. Le lendemain, il ne restait du banc qu'une ombre de granit affleurant la prairie. Le banc était en voie de complète disparition. Au framboisier, non seulement l'humeur était sombre, mais encore la peur frappait les esprits. Que se passait-il dans cette prairie en bord de mare? Qu'allait-on apprendre d'inimaginable et peut-être de démoniaque, qui sait? Voici ce qu'il était advenu. Dans cette partie de la prairie était arrivé il y a longtemps un petit être dont personne ne connaissait l'origine, pas même lui. C'était un gnome, un microscopique bonhomme laid et tordu, drôlement habillé de couleurs vives, avec sur la tête un bonnet terminé par un grelot. Il était comme un bébé naissant, naïf et sans défense. On pouvait penser que quelqu'un l'avait abandonné là parce qu'il ne faisait pas honneur. Il grandit, aidé par les vieilles cannes et par la grâce de Dieu. Un jour, un petit frère lui arriva, comme lui difforme, comme lui minuscule, comme lui coiffé de cet étrange bonnet et habillé de rutilante façon. Il se prit d'amitié pour ce compagnon et tous deux vécurent en bonne intelligence. Quelque temps après, un autre orphelin déshérité apparut à l'image des deux autres. Ils s'aimèrent tous les trois tendrement et ne se soucièrent pas de leur origine. L'important était d'avoir survécu et de s'organiser au mieux pour continuer à vivre. Ils s'appelaient Frafra, Frafré et Frafri. Frafra signifiait « j'ai froid ». En effet, quand il sut un peu parler au début de l'hiver, l'aîné disait aux cannes pour qu'elles le prennent sous leur plume « Frafra ». C'est lui qui baptisa le nouvel arrivant « Frafré », ce qui voulait dire « il a froid le petit frère ». Tous deux baptisèrent le troisième « Frafri », simplement pour que son nom ressemble au leur. Une semaine après sa conversation avec la colombe, le peintre avait comme de coutume laissé son tabouret dans la prairie. Frafri, le plus jeune, en pleine crise d'indépendance, se dit « voilà qui me ferait sous terre une jolie petite maison ». Il essaya de voir s'il était assez fort pour déplacer le siège, puis il travailla toute la journée à creuser une grotte qui puisse contenir le tabouret. La seconde nuit, il descendit celui-ci et s'y installa, heureux de se sentir chez lui. C'est cette nuit-là précisément que le tabouret disparut. Frafré fut non seulement triste de cette séparation, mais quelque peu jaloux. C'est lui qui descendit la chaise à son tour, après avoir creusé une grotte plus spacieuse que celle de son cadet et s'être débarrassé du dossier dont il ne savait que faire. Quand Frafra se retrouva seul, les deux autres ayant clos leur demeure, il se mit à philosopher sur la fragilité des rapports familiaux. Ses idées étaient assez sombres. « Je suis l'aîné, je dois trouver une solution. Comment ne se souviennent-ils pas des bons jours passés ensemble? Je les ai aimés tendrement. À quoi leur servira cette solitude, quand chacun de nous n'a pour compagnon que deux petits frères? Ciel, aide-moi, comme tu m'as toujours aidé. » C'est ce jour-là que le banc de pierre fut à grand-peine apporté près de la mare afin d'y remplacer les deux sièges perdus. Frafra fut subjugué par la beauté du granit. Il dégagea à son tour le terrain afin que le banc s'y enfonce. Puis il construisit des soutiens de terre pour faire un superbe et vaste édifice. Quand sa maison fut achevée, il eut l'impression d'avoir un palais. La solidité des murs était telle qu'il aurait pu être un chef de guerre de la Grèce antique. Il alla frapper à la porte de Frafré. « C'est moi, Frafra, je viens t'inviter à dîner, » dit-il sans rancune. « J'ai de bons œufs de canne. » Puis il frappa à la porte de Frafri. « Viens dîner, petit frère, j'ai de bons œufs de canne. » Lorsqu'ils se retrouvèrent chez Frafra, Frafré et Frafri, tous deux un peu confus, furent si émerveillés par la robustesse de la nouvelle maison, par le scintillement du granit, qu'ils ne songèrent plus à partir. On tint conseil. Il fut décidé que la vie commune reprendrait sur de nouvelles bases, le banc de pierre étant le symbole de l'inaltérabilité de leur mutuelle affection. Frafra suggéra qu'on remonte la chaise de cuisine et le tabouret. Cela occupa la nuit entière. Ils étaient heureux et chantaient si fort de leur voix pointue que la colombe les entendit de son tilleul. Elle alla cogner son bec à la vitre du peintre. Celui-ci s'agitait dans son lit, car il était aussi perplexe que malheureux. « Ouvre-moi, dit la colombe, et cesse de te tourmenter. Tu retrouveras ton tabouret. Il est un peu sale, mais je me charge, grâce à la blancheur de mes plumes, de te le restituer parfaitement utilisable. Dors maintenant, et travaille bien demain. » Avant de s'envoler, elle tourna son joli cou et ajouta « Hélas, je ne pourrai plus t'aider, car les nuages sont impatients de reprendre leur route habituelle. Le vent, qui est resté trop immobile, est maintenant d'assez méchante humeur. » La colombe n'expliqua rien de plus. Quand on retrouva la chaise cassée et le tabouret, chacun fut soulagé. Personne ne comprit cette histoire. La chaise de cuisine fit du bois de chauffage. Le peintre fut ravi de retrouver son petit siège. Et grand-père sacrifia au caprice de son ami le beau banc de pierre. En effet, il n'était plus question de le sortir de la terre au prix des efforts qu'il avait fallu déployer pour l'apporter jusque-là. On pensa qu'en bordure de mare, la terre était spongieuse, et on pria les enfants d'être très prudents. Quand le peintre replaça son tabouret, le temps s'était terriblement gâté. Pendant 8 jours, la pluie tomba à verse. Elle s'arrêta soudain. « J'aurais besoin d'un coussin, dit le peintre. Le bois de mon siège est tout détrempé. » Mais quand, assis sur le coussin protecteur, il considéra son paysage, il constata que les feuilles avaient pris des roussissements déplorables comparés aux verts brillants de ses arbres à lui. Un je ne sais quoi, doigté et de nébuleux, faisait la lumière moins transparente. L'effet recherché s'était complètement évanoui. Grand-père et grand-mère virent revenir l'artiste, son tabouret à la main, la mine renfrognée. Ils ne furent pas du tout surpris de l'entendre dire « C'est terminé pour cette saison. Il me faudra une fois de plus revoir cela l'année prochaine. »